Vous écoutez un podcast original de Radio B. Cette série de 8 épisodes donne la parole à des femmes concernées par les conduites addictives. Alcool, médicaments, substances illicites, derrière les produits, il y a des parcours de vie, des histoires singulières, souvent invisibilisées. À travers ces témoignages, ce podcast propose un espace de parole sobre, respectueux et sans jugement pour mieux comprendre les réalités de l'addiction au féminin, ses mécanismes, ses impacts et les chemins possibles vers l'accompagnement et le soin. Ce projet est réalisé avec le soutien de la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, financée par la préfecture de l'Ain. Tout au long de cette série, les voix que vous entendrez ont choisi de témoigner pour faire reculer les tabous, informer et contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de prévention et de santé publique.
La peur de l'abandon, du rejet, donc un vide en moi qu'il fallait que je remplisse sans arrêt. Donc je l'ai rempli avec l'addiction. Je m'appelle Carole, j'ai 52 ans. Je viens de Bourg-en-Bresse et je suis célibataire, mère d'un grand garçon et grand-mère d'un petit-fils de 5 ans et demi. Bah, quand j'étais enfant, j'avais une famille très toxique et j'étais heureuse à l'école. Et j'avais plusieurs personnalités. J'avais toujours mon masque, donc à l'école, j'étais le clown. Ça allait, je faisais des bêtises, mais pas des grosses bêtises. J'avais plusieurs visages, en fait. J'avais le visage à la maison, j'avais le visage avec mon frère et j'avais le visage à l'école. À la maison, il fallait mentir parce que mon père était alcoolique et il fallait pas le dire. Donc on m'apprenait à mentir et en même temps me traitait de menteuse. À l'école, j'étais souriante, j'étais l'amie de tout le monde, tout se passait très bien. Et par contre, je suis tombée dans l'addiction à l'âge de 12 ans. À l'alcool, parce qu'on buvait en famille et les enfants pouvaient boire, ça choquait pas. Puis j'avais un grand frère qui picolait pas mal aussi, qui faisait pas mal la fête. Il m'a embringué avec lui et puis dans le cannabis aussi. Bah, c'est mon frère qui me fournissait. Et il avait une grande bande de potes, donc il y avait toujours à consommer. À chaque soirée où il y avait ses potes, il y avait toujours à consommer. Pour lui, il était protecteur parce qu'il me protégeait de mon père et de l'ambiance qu'il y avait à la maison. Donc il m'a pris sous son aile, mais c'était pas de la bonne façon. Mais il avait quand même ce rôle de protecteur. Donc très vite, je suis tombée dans l'alcool et le cannabis. Toute ma famille paternelle, c'était tous des alcooliques. Mon père était alcoolique, mes deux frères avaient des problèmes d'addiction aussi. Et ma mère se dépatouillait là au milieu. Mais ouais, ça a joué un rôle essentiel. Pas moi, j'ai été traité comme un garçon, donc j'étais un garçon manqué. J'étais habillé avec les fringues de mes frères. Donc en plus, moi, je suis un accident et on me l'a suffisamment répété. Donc j'étais pas désiré et en plus, j'étais une fille et c'était pas cool. Il ne désirait pas avoir de troisième enfant. À 17 ans, j'ai eu mon fils. Très peu de temps après, je suis tombée dans la pharmacodépendance. Donc, je prenais un sirop à base de codéine, de datura, de belladone et d'alcool à 95. Ça rend très addict. J'avais rencontré un homme qui était beaucoup plus âgé que moi et qui prenait ça. Donc, par curiosité, j'ai essayé et je suis tombée dedans. Après, j'ai fait des fausses ordonnances avec certains médicaments. Je fabriquais des amphétamines pures que je m'injectais. Je prenais aussi de l'artane. C'est un traitement pour la maladie de Parkinson. Du rupnol. Le rupnol, c'est la drogue du violeur. Mais je prenais ça comme des bonbons. Des hallucinations. Par exemple, j'ai perdu 3 guitares dans la rue. Je les ai confiés à des amis qui n'étaient pas là, que je pensais voir et qui n'étaient pas là. On m'a retrouvé une fois à quatre pattes en train d'écarter les brins d'herbe. On m'a demandé ce que je faisais, je cherchais mon sac à dos. Il y a une fois, mon père est venu me chercher à Lyon. Il y avait mon fils dans la voiture derrière. Il s'était endormi, donc je me suis détachée pour l'allonger. Mon père m'a regardé bizarrement. Il me dit, mais tu fais quoi? Je lui dis, bah, j'allonge Woody, il s'est endormi. Et là, il m'a dit, mais il n'est pas là, le gamin. Donc là, je me suis rendu compte, je suis redescendu immédiatement. Je me suis rendu compte de l'hallucination que j'avais. Mais c'est des grosses hallucinations. Il a fallu que mon copain tombe en prison pour que j'arrête. J'ai réussi à décrocher pendant qu'il était en prison. Pour le Dinacode, le sirop que je prenais, il a fallu qu'on mette sous Subutex à très haute dose parce que c'est la codéine, c'est comme l'héroïne, c'est très addictif et c'est très compliqué d'arrêter. Je suis resté plusieurs années sous Subutex. Et j'ai fini par arrêter, mais j'ai repris l'alcool. Ma mère a écrit au procureur de la République comme quoi je l'avais abandonné parce que je lui avais laissé quelques jours pour me reposer. Et elle m'a fait un coup de Trafalgar, donc j'ai perdu la garde de mon fils. Donc j'étais livrée à moi-même. Du coup, j'ai lâché mon appartement et je suis partie dans la rue. Pendant 2 ans, et j'étais toujours accompagnée de gens qui avaient des chiens, donc qui voyageaient différemment, qui faisaient la manche différemment. Moi, je faisais des bracelets dans le métro pour gagner ma vie. Et la nuit, je dormais pas, j'étais sous amphétamine, donc je faisais 4-5 nuits blanches d'affilée. Je mangeais très peu. Au bout de 4-5 jours, je m'effondrais. Et je pouvais rester 24 heures inerte. Et après, je remangeais et je repartais dans les amphétamines et je repartais de plus belle. C'était dur. Moi, je n'ai pas consommé de toute façon. Donc quand je consomme toujours à outrance. Donc j'y allais forcément au bout du bout. Moi, si je prends un bonbon, je peux pas prendre un bonbon, je prends le sac en entier. Si je mange beaucoup. Mais tout ce que je fais, je le fais toujours à fond. En 97, je suis parti en cure. Bon, ça n'a pas tenu, j'ai rechuté pendant la cure. C'était une cure alcool. Et j'ai récupéré la garde de mon fils, donc je me suis calmée. Et en 2007, j'ai découvert le château à Bussy-le-Long, à côté de Soissons. C'est la fille de Jane Birkin qui l'a ouvert. Pour rentrer, il faut être abstinent de tout produit modifiant le comportement. Donc il faut être clean, il faut être sevré. Et donc j'ai découvert ça. Je suis resté clean pendant 2 ans. Ou même dans le centre, dans le château, les thérapeutes, c'était des anciens tox clean. Donc on ne pouvait pas leur faire à l'envers. C'était très cadré, beaucoup de thérapie. J'ai fait 10 ans de thérapie. Donc il faut rentrer et être sevré. Donc il n'y a pas de médecin, il n'y a que des thérapeutes. Et on fait des séances de thérapie matin, à l'après-midi, il y en a 2, individuelles, en groupe, en demi-groupe. Il y a aussi des écrits, des questions sur notre consommation. Par exemple, des exemples de blackout, des exemples où on a menti ou manipulé pour obtenir du produit. Enfin, pas mal de questions de ce style. Parce que c'est basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Donc ça s'appelle narcotique anonyme, ce qui englobe tous les toxicomanes, toutes les drogues. Donc c'est très très intensif. Ça me sert aujourd'hui, j'ai du recul sur ma situation. Donc quand je suis sorti du château, je suis allé dans un foyer thérapeutique qui était basé exactement comme sur le château, avec des groupes de thérapie, et basé sur les 12 étapes aussi. Et je faisais des réunions narcotiques anonymes tous les jours. Maintenant, ça a été reconnu par la sécurité sociale. Par exemple, il y a des gens qui ont des injonctions de soins qui peuvent venir en réunion et ça fait foi de soins. C'est un microcosme, c'était sur Paris à l'époque. On était peut-être 500 à se voir très régulièrement. Il y a de l'entraide. C'est des groupes qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'au milieu de la réunion, il y a une cagnotte qui passe. Tout le monde met une pièce dedans, enfin s'il a, et pour payer la salle, la littérature aussi. Et après la réunion, en général, on allait tous au restaurant. Ceux qui avaient de l'argent mettaient pour ceux qui n'avaient pas d'argent. C'était un groupe et on était tous clean. Après, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui habitait à Montpellier, donc j'ai quitté Paris du jour au lendemain. Et lui avait regardé un peu sur Internet ce que c'était que Narcotique Anonyme. Et il m'a dit c'est une secte. Enfin, il m'a retourné le cerveau. Il m'a dit de toute façon, t'es guérie maintenant, tu peux reboire un verre. Donc j'ai recommencé par boire un verre et puis j'ai fini par boire la bouteille. Après, j'ai rechuté dans le cannabis. Et plus tard, j'ai connu l'héroïne. L'héroïne, ça a été très compliqué d'arrêter parce que le manque, c'est atroce. Physiquement et psychologiquement, mais physiquement, c'est atroce. On a mal de partout, on a des impatiences dans les jambes. On a le nez qui coule, on est au plus mal. On est à l'article de la mort, mais on meurt pas. On souffre. J'ai pris un produit de substitution, donc ça m'a aidé. J'ai pris du Subutex, mais sans rien, ça peut durer une semaine, deux semaines. Ben, en fait, c'était quelqu'un de toxique, qui était très possessif et qui m'a coupé un peu de mon fils, de mes parents, de ma famille, de mes amis. Donc j'ai fini par trouver du travail. Et en trouvant du travail, en parlant de ma situation, mes collègues de travail m'ont ouvert les yeux en me disant que c'était pas normal ce qui se passait dans ma vie. Donc je l'ai quitté. Et je trouvais un petit appartement. Et là, je me suis refait un cercle d'amis. Mais tout le monde consommait aussi. Donc, beaucoup d'alcool. Je buvais de l'alcool à 9 degrés. C'était 6-8 bières. Si je prenais de la vodka, c'était la moitié de la bouteille en quelques heures. On faisait des barbecues tous ensemble, les packs de bière s'empilaient, on les finissait tous. C'est là que j'ai goûté pour la première fois de la cocaïne, et beaucoup de cannabis aussi. Mais on buvait jusqu'à s'écrouler en fait. Mais j'ai toujours pensé contrôler et quand on contrôle rien du tout. C'est tout à fait le contraire. Bah, on est tellement dans le déni que changer de regard sur soi, c'est compliqué. Parce que la consommation, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on consomme, c'est qu'on a un problème. Donc il faut trouver le problème et pour le trouver, il faut le chercher. Il faut avoir envie de le chercher. Quand j'étais dans le sud, les jeunes avec qui je traînais allaient en fête pour le son. Moi, j'y allais parce qu'il y avait de la MDMA, du speed, les nouvelles drogues que je connaissais pas. Moi, j'y allais uniquement pour ça. J'ai pris beaucoup de kétamine aussi. Donc la kétamine, ça a un effet un petit peu... on est très amoureux, on est en plane. La MDMA, c'est pareil, on est très amoureux, on plane aussi. Le speed, c'est différent, ça porte bien son nom, on est speed. Hein. Mais peu importe le produit, chercher à me désinhiber. Et j'ai découvert ça. Donc j'en ai pris beaucoup aussi. Même si je me suis mis un masque très tôt, quand j'étais enfant, pour sourire, pour être avenante. Mais je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Et ça m'aidait à vivre normalement. ça me désinhibait. Moi, je cherchais l'effet, fuir qui j'étais, la peur de l'abandon, du rejet, donc un vide en moi qu'il fallait que je remplisse sans arrêt. Donc, je l'ai rempli avec l'addiction. J'ai travaillé un peu, mais le boulot m'a prêté une voiture que j'ai plantée le soir même. Donc, le boulot s'est arrêté net. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit que je quittais Montpellier, qu'il fallait qu'ils viennent me chercher avec un camion et que je rentrais à Bourg. Donc mes parents avaient une maison de campagne, même si c'est un peu insalubre. Donc 2014, je suis revenue ici, dans cette maison. C'est leur façon de m'aimer, c'était de me donner de l'argent ou de m'aider quand j'étais dans la panade. Quand je suis tombée dans la cocaïne, j'avais jamais d'argent, donc en fin de mois, je demandais 50 euros à mon père pour pouvoir m'acheter des cigarettes et à manger. Je le rendais en début de mois, mais tous les fins de mois, c'était la même chose. Quand il a fallu assurer ma voiture, c'est lui qui a payé. J'ai fini par me faire expulser de mon logement. Donc je suis retournée dans la maison de campagne. Donc je suis restée un an et demi là-bas. Et là, je suis en sous-location chez Tremplin. Et ce matin, on m'a attribué un F2. Quand on est dedans, si on n'a pas décidé soi-même d'arrêter, Pierre-Paul Jack peut vous tendre la main, ça ne changera rien. Moi, j'ai essayé d'arrêter pour mon fils, ça n'a pas marché. J'ai refait la démarche pour moi. Et là, ça a marché. Il fallait que je pense à moi d'abord pour pouvoir ensuite m'occuper de mon fils correctement. Et, quand on est dedans, peu importe qui vous tend la main, vous ne la prendrez pas. C'est soit un déclic, soit... Moi, je sais que ça m'a pris comme ça du jour au lendemain. Je n'ai pas eu spécialement de déclic. J'ai décidé d'arrêter. Et j'ai arrêté. Ça fait 3 ans et 2 mois et depuis je suis clean et ma vie a radicalement changé. Déjà financièrement, j'arrive à la fin du mois, j'ai de l'argent, j'ai jamais eu de retard de paiement de loyer, j'ai pas de dette. C'est moi qui prête de l'argent aux gens même. Bien avant d'arrêter de consommer, j'ai demandé de l'aide toute seule. Je savais que j'y arriverais pas donc... maintenant que j'ai arrêté de consommer, cette aide, elle m'est précieuse parce que je continue à travailler sur moi, à évoluer, que ça m'aide au quotidien. Donc aujourd'hui, ma vie va bien. Je suis très heureuse d'avoir arrêté. Je suis résiliente. C'est-à-dire, malgré les épreuves, être restée positive et toujours avancer. Je suis bien dans mes baskets, j'ai ma petite routine, je suis assez solitaire aussi. Je suis très heureuse, je retournerai en arrière pour rien au monde.